visage de l'église locale.
Chers amis de Radio Présence Pyrénéen, bonjour. Au microphone, c'est Père Laurentio, de l'ensemble pastoral Notre-Dame de Coteaux, qui va vous tenir la méditation pour le 15e dimanche ordinaire. Je vais vous lire la lecture brève de l'Évangile pour le 15e dimanche, en vous laissant le soin de lire l'entièreté du texte de l'Évangile proposé pour ce 15e dimanche de temps ordinaire. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque, où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, et leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute des racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous ai dit au début de notre méditation, je vous laisse le soin de continuer la lecture de l'Évangile, lecture dans laquelle les disciples demandent des explications, que le Christ leur explique le sens de la parabole qui leur est donnée. Mais, on le sait tous, le Christ a commencé sa mission à Capharnaüm, une ville carrefour, signe de l'ouverture missionnaire d'un projet déjà annoncé par les prophètes. Dès le début, les foules sont venues en grand nombre, désirant écouter les paroles du Maître et se faire guérir en même temps. Jésus, chers amis, a vite rencontré l'opposition de tous ceux et celles qui troublaient le message des béatitudes et la révélation de son identité. Rappelons-nous que dans son village de Nazareth, tout proche de là, Jésus déjà avait été incompris, car l'évangéliste nous dit il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas. Méditer sur l'avenir des semailles, c'est découvrir l'extraordinaire confiance du semeur qu'est Dieu lui-même, quoi qu'il en soit des épreuves vécues par son peuple. Dans la première lecture, que je vous laisse le soin de la lire à vous-même, le prophète Isaïe apporte la consolation du Seigneur au peuple en exil et lui rappelle que la parole de Dieu ne se dessèche pas comme l'herbe. Elle produit son fruit tôt ou tard. Avec une belle image de la fécondité de la grâce, la pluie ou la neige que Dieu envoie ne revient pas sans avoir fécondé la terre. Une même leçon d'espérance est donnée par saint Paul dans la deuxième lecture. Même si l'homme a été un mauvais jardinier, et même si la création a été livrée au pouvoir du néant, il va être délivré après être passé par les douleurs de l'enfantement. L'Évangile, chers amis, oriente notre méditation du côté de la terre que reçoit la semence, car Jésus nous fait comprendre qu'il y a trois façons de recevoir la parole. La semence sur le chemin évoque toutes les fois où celle-ci a été reçue comme étrangère à notre propre vie. Peut-être trop distrait. Nous ne nous sommes pas sentis concernés et les oiseaux du ciel auront vite fait de tout emporter. Une autre semence est accueillie avec joie, mais peut-être nous n'avons pas trouvé le temps d'approfondir tel point de ma foi ou telle demande d'aide d'une personne. La semence qui grandit, mais est vite étouffée par les épines, peut faire penser à tant de nos contemporains, heureux de vivre leur foi à l'âge de l'enfance, mais on a oublié après leur première générosité de l'enfance. Regardons ce qui se passe, y compris dans le sein de l'Église. Ô combien sont ceux et celles qui renoncent tout simplement à suivre le Christ. Certes, ils sont dans la liberté de leur choix, mais la parole du Christ dans l'Évangile nous dit le concret, justement, de notre foi. Et voici, heureusement, que l'Évangile appelle la bonne terre. Disons que personne n'est bonne terre tout seul. Il faut laisser travailler en nous le maître du champ ou de la vigne. Alors la bonne terre sera la parole de Dieu longuement écoutée, comprise, méditée. Nous pouvons méditer cette parole du Seigneur comme une mise en garde, mais aussi comme un signe d'espérance. Tout d'abord, dans ce fait que le Seigneur sème largement dans l'espoir que la semence sera accueillie même par les cœurs les plus durs. Ensuite, parce que la qualité, la fécondité de la semence qui vient de Dieu est exceptionnelle. Avoir déjà du rendement à 30 pour 1 était sans doute quelque chose d'inouï sur les terres de Galilée. Finalement, et heureusement, Dieu ne fait pas le tri entre les terres productives et les autres. Il sème largement et offre à tous, bons et méchants, en même temps, la grâce de son amour. Personne aux différents terrains où la semence de la foi cherche aujourd'hui à trouver son chemin, que ce soit dans notre pays ou dans les divers champs de mission à travers le monde, malgré toutes les difficultés, ce que le Christ nous encourage dans le texte de l'Évangile, c'est de continuer à semer et à travailler notre terre. Alors, peut-être nous pouvons terminer par une petite prière en disant tout simplement « Aide-nous Seigneur à discerner ce qui lève même petitement et que nous pouvons aider humblement à grandir malgré parfois toutes les apparences contraires. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton esprit qui ruisselle sur nous tous et en chacun, et qui vient féconder la parole que toi-même tu déposes dans nos cœurs. Amen.
Présence. Présence. Les visages de l'Église locale.
À la recherche de l'essentiel, Jean-Michel Castaing.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le premier don de l'Esprit-Saint. Mais pourquoi arrive-t-il en premier, alors qu'il n'est pas le plus grand parmi ces dons? En fait, si la Bible répète inlassablement que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, c'est parce que cette crainte est d'abord un instrument pour nous faire connaître deux choses. Dieu et nous-mêmes. La crainte de Dieu nous enseigne en effet que Dieu est tout-puissant, infini, qu'il est le juge suprême, mais surtout le bonheur parfait pour ceux qui lui sont attachés. Par ce don, le don de crainte, l'homme prend donc la mesure de l'être divin. Mais par contre-coup, il se découvre une chétive créature face à lui. La crainte de Dieu révèle en effet à l'homme l'immense écart entre le Créateur et lui-même. Ce don du Saint-Esprit nous rend donc sages en nous faisant prendre conscience de la différence entre Dieu et l'homme. Cependant, une telle sagesse est appelée du nom de crainte parce qu'à cette connaissance se mêle l'élément moral. Lequel? La crainte d'offenser Dieu? Certainement. Mais si Dieu est amour, ainsi que nous le dit notre foi, pourquoi le craindre? Dans sa miséricorde, Dieu n'effacera-t-il pas nos fautes? Il serait dès lors absurde de craindre la bonté en personne. Ou bien Dieu serait-il versatile, au point de passer comme nous de la bénignité, de la bonté à la sévérité et à la dureté? Mais ce serait là imaginer Dieu à notre image et en faire une idole inquiétante. En fait, pour bien répondre à la question de la crainte de Dieu, il est nécessaire de la décentrer de Dieu vers l'homme. Si l'Esprit-Saint nous fait craindre Dieu, ce n'est pas d'abord que celui-ci serait froissé de voir ses créatures se détourner de lui et lui manquer de respect. Dans ce don de l'Esprit, Dieu a d'abord souci de nous plutôt que de lui. C'est à notre avantage que l'Esprit-Saint nous donne cette crainte. Mais quel avantage et pour quel motif? Examinons successivement le motif et l'avantage du don de crainte. D'abord le motif. Nous sommes portés au mal et, de plus, nous nourrissons souvent envers le prochain et Dieu des sentiments peu charitables. Nous ne sommes pas tout amour comme Dieu. Chez nous, les bons sentiments sont mêlés à la jalousie, à la méfiance, à la haine parfois. et ces mauvais sentiments se répercutent sur notre manière d'agir. Bref, nous sommes pécheurs. Le don de crainte se rapporte d'abord à nos penchants mauvais et plus largement à ce que nous sommes. Mais pourquoi alors l'appeler crainte de Dieu ? En fait, la crainte de nos possibilités de péché est dite crainte du Seigneur parce que ces penchants nous éloignent de Dieu et, si nous persévérons, risquent de nous séparer de lui. Nous préserver d'un tel malheur, tel est l'avantage que nous retirons de ce don de l'Esprit-Saint, de ce don de crainte. La crainte, en effet, nous empêche de nous séparer de Dieu en nous mettant sur nos gardes quant à notre péché et à ses conséquences mortifères. Nous risquons de nous couper de la source de la béatitude et du bonheur si nous ne rompons pas avec le péché ou avec nos mauvais sentiments. Non pas que Dieu nous rejette, mais en lui, qui n'est qu'amour, aucun être animé d'envie, de défiance, de rancune tenace ne peut être reçu. C'est nous-mêmes qui nous excluons du royaume de paix et d'amour en nourrissant de mauvais sentiments. Et contre notre liberté, Dieu ne peut rien. Il est donc de notre avantage de demander à l'Esprit de convertir notre esprit afin que nous puissions jouir de la compagnie de celui qui est le bonheur infini. Et cette conversion s'obtient d'abord en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et qu'il est donc nécessaire de rester sur nos gardes et donc de craindre de chuter ou plutôt de rechuter. Car nous en sommes rarement à notre première chute, tant nos existences sont scandées par de perpétuelles rechutes. Ainsi donc, la crainte de Dieu consiste d'abord en la crainte du pouvoir que nous avons de nous séparer de lui. Et à un niveau supérieur, elle consiste en la crainte de déplaire à celui que nous aimons.
Présence. Les visages de l'Église locale.